titanesque émission.
Une coproduction Titan Radio BLV.
Bonjour à tout le monde, vous êtes dans la titanesque émission numéro 26 et c'est la rentrée. Cette émission inaugure la troisième saison de la titanesque émission, le magazine féministe de la Vallée du Rhône. Et cette année, petite nouveauté, nous reviendrons tous les mois.
Elle est pas belle la vie.
Moi c'est Ditel et je suis sur les ondes avec Kat.
Bonjour, bonjour, tu sais quoi, je sais pas si c'est pas la quatrième saison en fait. C'est pas extraordinaire ça? Mais c'est... je suis pas sûre, hein. Ouais, je m'en rappelle plus.
Mais on prépare un petit peu ensemble et visiblement, ben, on a mal préparé le truc. À mes côtés, on retrouve aussi Oxane qui présentera sa chronique jeunesse. Salut Oxane.
Salut.
Aujourd'hui, on vous a préparé une émission qui nous porte à cœur. Elle va concerner l'interruption volontaire de grossesse, qu'on appelle communément l'IVG. Pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que ça nous concerne, nous, inclusifs. Parce qu'il y a du chamboulement en ce moment. Et parce que c'est quand même un droit à la base, mais qui est en danger. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Dixit Simone de Beauvoir, dans son essai Le deuxième sexe, paru en 1949. Pour parler de ce gros sujet, on a invité Constance, militante à Nous Tous 38, qui a notamment fait partie de l'organisation de la marche pour le droit à l'IVG, qui a eu lieu le 2 juillet dernier à Grenoble, par Solidarité Internationale. Bonjour Constance.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue de Grenoble pour l'émission, on est vraiment super contents de t'avoir avec nous.
Cécile aussi est venue de Grenoble.
Exactement, on a également invité Cécile, qui a vécu ses dernières 15 années à New York, et qui est tout fraîchement revenue en France il y a à peu près un an. Salut Cécile.
Bonjour tout le monde.
Elle connaît donc plutôt bien la situation américaine et pourra nous en parler dans l'émission. Sera notre référente US.
Waouh.
Dis donc, les grenobloises, vous êtes venues en force. Hein.
Elle est pas belle la vie.
Ah mais elle est trop belle.
Laisse-moi
la vie.
Laisse-moi te chanter. T'allais te faire un où je serais poli pour la télé.
Constance, vous avez organisé une marche à Grenoble en solidarité avec les habitants américains pour le droit à l'IVG. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait aux US? Pourquoi cette marche
Alors, il y a une manifestation qui avait été organisée le 2 juillet, effectivement, en réaction à l'actualité américaine, la décision de la Cour suprême qui était attendue depuis longtemps. Il y avait eu des fuites et on savait que... Ce qui allait se passer, donc c'était pas non plus une énorme surprise, mais ça reste néanmoins une nouvelle terrible qui concerne en fait le droit fédéral, c'est-à-dire qu'ensuite il revient à chaque État de décider des lois qui vont s'appliquer à leur niveau. Et malheureusement, ce qu'on observe depuis, c'est que beaucoup d'États, en particulier d'États aux mains du Parti conservateur, ont décidé de restreindre le droit à l'avortement, voire de l'interdire complètement, avec parfois des mesures qui ont été mises en place qui poussent par exemple à la délation des femmes et des personnes qui recourent à l'avortement.
Si on reprend d'ailleurs les éléments dans l'ordre, en 1973, la Cour suprême a légalisé l'avortement aux États-Unis avec l'arrêt Roe versus Wade. Corrige-moi Cécile si c'est mal dit en anglais. Dès 73, en fait, il y a eu des mouvements anti-avortement qui sont arrivés. J'ai lu ça tout à l'heure, juste avant l'émission. Donc, ces mouvements, c'était des mouvements catholiques américains, puis des mouvements protestants évangéliques. Il faut savoir qu'à la base, ces deux entités ne s'entendent pas du tout, mais à partir des années 80, ils se sont regroupés et se sont alliés pour cette, entre guillemets, cause. Et puis, depuis 89, la Cour suprême a décrété que ce serait plus une décision fédérale, mais État par État. Et est-ce que, Cécile, tu peux nous expliquer justement un peu plus en détail pourquoi on en est arrivé à ce que dans certains États, l'IVG soit complètement supprimé? Comment ça fonctionne en fait? C'est vrai que pour nous, en France, on a juste l'État fédéral et puis c'est tout. Là-bas, c'est un peu différent. Je ne sais pas comment tu peux répondre à ça, mais...
Alors, du coup, ce que je vais partir sur le fait que, comme tu as dit, après Roe v. Wade, il y a eu un mouvement vraiment de la population qui a été entraînée par la droite religieuse, qui s'est regroupée autour de certains thèmes. Et surtout, il faut se rappeler que ce soit à cette époque-là ou maintenant, c'était une minorité. Hein. Donc c'est la droite religieuse qui est minoritaire aux États-Unis qui a décidé de se battre pour le fait d'interdire l'avortement ou de réduire l'avortement. Parce que ce qui s'est passé avec Roe v. Wade, c'est que l'avortement avant 15 semaines, donc il y a aux États-Unis le grand baromètre, c'est la date de viabilité du fœtus hors de l'utérus. Ça a toujours été ça, le grand baromètre pour interdire ou pas l'accès à l'avortement. Donc Roe versus Wade, ça mettait dans la loi fédérale que les 15 semaines étaient... On ne pouvait plus y toucher, elles étaient sacro-saintes. Et en fait, c'est à partir de ça que s'est regroupée la droite religieuse pour pouvoir essayer de manger, soit à droite, de plein de techniques différentes sur ça. Ce qu'on a vu vraiment, et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête aussi pour la France, c'est que ça a été très progressif. Il n'y a rien de... Voilà, la Roe v. Wade a passé et après, il y a vraiment eu pendant des décennies, progressivement, petit à petit, des mesures qui ont été prises pour réduire le droit à l'avortement. Et avec... Vas-y.
Et justement,
on lève tout le doigt pour prendre la parole, c'est trop intéressant.
Et ce que je voulais dire, ouais, c'est que en fait, donc l'avortement a été en effet légalisé, par la Cour suprême. Et en fait, aux États-Unis, si j'ai bien compris, ce que la Cour suprême décide, seulement la Cour suprême peut le défaire. La Cour suprême, c'est en fait 9 juges qui sont nommés à vie. Ouais. Quand les sièges deviennent vacants, c'est le président qui nomme ses juges. Et le candidat ou les candidats qu'il va proposer pour remplacer ces sièges vacants vont être validés par le Sénat. Actuellement, parmi les 9 juges qu'il y a, il y en a 6 qui ont été élus par des présidents républicains anti-avortement. Et ça a pris 50 ans.
Exactement. Donc c'était vraiment un travail de longue haleine, en fait, de ces partis-là pour mettre en place dans des pions stratégiques, que ce soit et au niveau des États, donc différents États, et au niveau fédéral, donc avec la Cour suprême par exemple, mais aussi même au niveau du Sénat ou de House of Representatives, qui a été mis petit à petit. Donc encore une fois, c'est vraiment un travail de longue haleine.
Oui, c'est ça, non, mais c'est exactement ce que j'ai lu dans un article de Libé dont j'avais vachement envie de parler, donc c'est super que t'en parles. Moi, ce que j'ai lu, c'est que c'est effectivement, ça a pris 50 ans et que c'est toute une stratégie de la droite religieuse et des chrétiens évangéliques, donc protestants évangéliques, mais enfin, voilà, nous on a les catholiques, eux, ils ont les évangéliques qui sont majoritaires, c'est la religion majoritaire dans le pays, on va dire. Tu feras ça, ce côté-là. Et ce que j'ai lu, c'est que d'un mouvement anti-avortement confidentiel et entièrement catholique dans les années 70, on aboutit aujourd'hui à un mouvement qui a un parti politique qui porte sa voix, hein, puisque le Parti conservateur agit et récolte des voix en étant anti-avortement. Et ce qui soulignait que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait, en réalité, les chrétiens évangéliques sont constitués comme une force politique sur la dimension raciale, c'est-à-dire en s'opposant à la fin des exemptions fiscales pour les écoles ségrégées. Et qu'à ce moment-là, il y a des stratèges qui ont eu la bonne idée de se dire sur la ségrégation raciale, on ne va pas gagner. Par contre, sur l'avortement, on a nos chances. Et là, ils ont complètement modifié leur discours et ils sont partis sur la défense du fœtus, que je trouve hyper habile en fait, hein, comme si le fœtus était donc un être humain. Quand on défend pas une chaise ou une table, donc ça, il y a le choix des mots qui compte vachement.
Un être humain en devenir, certains disent.
Voilà, un être humain. En France, on retrouve ça avec des mouvements qui comptent les survivants. Hein, ça serait, c'est-à-dire que nous qui sommes nés serions les survivants de l'avortement. La droite catholique qui nous parle de génocide, qui compare l'avortement à un génocide. Donc on se dit en France. Enfin, certains disent en France, on en est loin, mais moi, je trouve qu'on n'en est pas si loin que ça avec des discours qui sont pour le moment d'extrême droite, mais comme aux États-Unis, qui sont peut-être confidentiels, mais dans 50 ans, moi, j'ai envie que mes petits-enfants, parce que bon, j'ai l'âge d'avoir des petits-enfants, puissent avorter et aient le libre choix de leur corps. Donc... ce qui m'a frappé, c'est le côté, enfin, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, le côté stratégie pour avoir le pouvoir.
Oui, et tu parlais de l'humanisation d'un fœtus. Ça, moi, je l'ai vraiment vécu. Donc, j'ai passé mon enfance à Miami. Et je me souviens de pancartes. Et il y avait vraiment... Et puis, en normal, il y a 4-5 images qui, depuis maintenant 50 ans, bah, peut-être pas 50 ans, mais une bonne vingtaine d'années, tournent ces 4 images de fœtus qui ont été avortées en fin de terme, qui sont reprises partout, tout le temps, etc. Et qui sont vraiment placardées devant les écoles, devant les lieux de soins médicaux, devant les églises, et qui sont pris comme exemple, ces 4 images, pour aussi créer, voyez, pour faire la similitude, en fait, entre un fœtus et un enfant qui est né à terme. Et du coup, ça, c'est vrai que même à New York, là, à côté de l'école de mes enfants, il y avait une femme qui y était tous les jours, qui neige, qui pleuve, qui elle y était tous les jours, avec sa pancarte, avec ses 2 images de fœtus, dont je me souviens, moi, enfant, les voir à Miami, et qui parlait du fait qu'on tuait les bébés quand on allait avorter.
Oui, c'est un espèce de fantasme hyper violent, ouais, et exposé en permanence. Mmh,
mmh. Et avec une reprise, et le fait de répéter un message, ça marche. Mmh. Le fait de répéter un message pendant des années et des années, ben, les gens, ils écoutent.
Mmh. Et cette démarche, on la voit vachement aux États-Unis. En France, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir ces affiches, ce genre de choses. On n'en entend pas parler beaucoup, hein, de l'IVG, on en parlera après. Mais par contre, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une propagande anti-IVG jusqu'à présent. Alors certainement, mais peut-être pas de la même ampleur.
Là, c'est dans les rues, c'est au niveau de la 42e et la Lexington Avenue. Donc, on est vraiment au plein centre de Manhattan où il y a la dame avec son petit pancarte.
Aux États-Unis, on a l'impression que vous avez vraiment des fous de Dieu, qu'on ne voit pas trop, nous, ici. Quoiqu'à Valence, on a nos 2-3, pardon pour peut-être certains auditeurs, auditrices, mais 2-3 doudingues qui se trimballent avec des pancartes sur le boulevard, Dieu t'aime, Jésus, etc. Et souvent, quand je les vois, je me dis, on verrait les mêmes, mais musulmans, on viendrait nous dire c'est scandaleux et les islamiques seront partout. Donc moi, ça me choque beaucoup, cette... irruption de la religion dans la rue. Et dans ce que tu décris, ils n'hésitent pas à une violence énorme. Parce qu'en tant que gamin, aller voir des images comme ça, j'imagine que c'est très choquant.
Oui. Enfin, mais bon, aussi, ce qui est assez intéressant, parce qu'en France, quand même, la plupart des jours fériés sont quand même des jours religieux. Hein.
Ah bah, donc, clairement.
Oui, et puis des jours religieux catholiques uniquement. À New York, on a les jours fériés musulmans, on a les jours fériés juifs, on fête la nouvelle année... voilà, on fête quand même beaucoup plus de diversité de jours fériés.
Oui, c'est vrai, j'avais lu une fois sur les États-Unis qu'on pouvait être de n'importe quelle religion, mais pas athée. C'est-à-dire que toutes les religions étaient vraiment acceptées, mais ce qui était difficile à comprendre, c'était le fait non religieux. Mais enfin bon, c'est pas le sujet de l'IVG, mais on constate quand même que beaucoup de religions, enfin je sais pas si je me trompe, ce que t'en dirais toi Constance, sont anti-avortement. Est-ce que c'est un point commun?
Non, pas du tout. Par exemple, la religion juive, elle sanctifie vraiment la vie et protège la vie de la personne qui porte le fœtus.
D'accord.
Par exemple. Et la religion juive est très importante à New York. C'est une ville qui a une grande tradition de religion juive. Et pour le coup...
Bah ça fait du bien, ouais, de le savoir.
Autant que je sache, dans l'islam non plus, il n'y a pas d'interdiction comme ça, formelle et absolue de l'avortement, comme on peut en trouver, par exemple, effectivement, chez les évangélistes ou chez les catholiques.
D'accord. Bah, écoute, voilà, je m'excuse auprès des auditeurs et auditrices auprès de qui j'aurais fait une généralisation abusive. Donc, c'est une particularité de la chrétienté, finalement, d'être anti-avortement, d'après ce que vous dites.
En tout cas, au passage, je vous conseille l'épisode « Ceux qui vont interdire l'IVG » du podcast La Loupe par l'Express, qui est en plein dans ce sujet et très intéressant. Je vous propose de faire une petite pause musique avec une magnifique chanson de Barbara Pravi qui s'appelle « Cher » et qu'on a eu l'occasion d'écouter en live à Valence cet été durant le festival Sur le Champ. Je ne sais pas si vous étiez là, mais c'était vraiment superbe.
8h27, le ciel bleu rend presque l'hôpital joli. Presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi. Une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps. Une pilule, puis voilà. La honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça.
Mais c'est trop tôt pour ça.
Barbara, vous êtes sûre? On t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que t'y as pensé.
Bien sûr que t'y as pensé.
8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. T'as 20 ans. 20 ans, c'est beau, non? Pourtant, tu sais pas bien. La confiance à zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins. Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. Mais au fond, tu te vois comme ils te regardent, eux. Sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir. Et tu crois que le sexe est lié à la violence. Tu crois que l'essentiel, c'est de garder la face. Si tu joues bien, ça passe. Quand on joue bien, tout passe. Tu fuis en avant pour ne pas t'écouter, ne pas te comprendre, même pas te respecter. Tu te coupes les cheveux courts, te tatoues de conneries. Les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent. Et les larmes dans l'aube, qu'est-ce que tu peux y faire? T'as 26 ans. Le ciel bleu rend presque le boulevard joli. Presque. T'as 26 ans, quasi 26 et demi. Maintenant, tu te sens prête. Tu t'entends raisonner et puis t'abandonner. Maintenant, tu t'écoutes.
Maintenant, tu t'écoutes.
Tu sais que t'as le droit de te laisser aller et de te dire je t'aime.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. De l'amour, du respect, des baisers, du désir. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. Amour, respect, baiser, désir.
Sans le savoir, je m'avançais. J'avançais vers ma chère chérie. T'avanceras vers ta chair, ma chérie. Maman, on sait, nous avançons. Avançons vers nos chers, chérie. Avançons vers nos chers, guéris. Avançons vers nos chers. Sans le savoir, je m'avançais. J'avançais vers ma chère, chérie. Sans le savoir, tu avanceras. T'avanceras vers cette chair, ma chérie. Maman, on sait, nous avançons. Avançons vers nos chers, chérie. Avançons vers nos chers, guéris. Avançons vers nos chers.
On note quand même cette phrase super dure, si t'es enceinte à 17 ans, c'est que tu es une pute et que tu t'es pas protégée.
Ah bah ça fait tout à fait écho avec un anti-vax complotiste, médecine douce, etc. Donc il y a des liens sur lesquels j'avais envie d'attirer l'attention en France. Attention avec voilà, une espèce de naturalisme et d'essentialisme où lui dit que l'IVG c'est un symptôme de la débauche sexuelle actuelle. Et ce type, il est suivi par je ne sais plus combien de centaines de milliers de personnes.
Tu parles de Thierry Casanovas ?
Oui.
Bon, du coup, on parlait des US. Barbara Pravi, c'est une chanteuse française, si je ne me trompe pas. On voit qu'elle a fait une chanson autobiographique. Hein, donc, en France aussi, c'est un gros sujet. Et au-delà de nous sentir concernés pour les femmes américaines, ce que je trouve intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qui nous fait peur à nous, en France, concernant l'IVG. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, ça pourrait arriver de plus avoir le droit d'avoir recours à l'IVG ? Parce qu'on entend que les opposants à l'avortement, ils n'ont jamais lâché prise. Aux États-Unis, il y en a l'exemple même. Ils ont même pris bien leur temps pour bien mettre les stratégies en place. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse la parole.
J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais si on veut commencer, par exemple, sur les liens qui peuvent exister entre l'Europe et les États-Unis, c'est que, par exemple, il y a des organisations qui, grâce à leur succès aux États-Unis, qui ont réussi à se remobiliser sur la question d'avortement et à gagner davantage d'argent et de reconnaissance aussi politique. On a ces organisations-là qui ont aussi des branches en Europe et, par exemple, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, on va avoir des interventions dans un certain nombre d'affaires, d'avis qui vont être émis auprès de la Cour par un lobby anti-avortement qui s'appelle Alliance Defending Freedom, ADF, et qui est très présent aux États-Unis et qui est vraiment au cœur des combats anti-avortement, mais aussi anti-LGBTI et contre les droits des femmes. Et cette organisation-là est présente en Europe et est présente, fait du lobbying, notamment auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, et donc aussi auprès du Parlement européen. Ensuite, une autre question, c'est évidemment, on a des mouvements anti-avortement en Europe qui sont très, très, comment dire, endémiques, notamment poussés par l'Église catholique, ou en tout cas les mouvements politiques catholiques, mais aussi l'Église, voilà, on ne va pas minorer son rôle néanmoins. Et on en a vu l'expression en France, donc avec, dans beaucoup de pays, hein, en Pologne, hein, l'Église était vraiment au cœur de ces mouvements-là. À Malte, aujourd'hui, l'avortement reste interdit. Malte, qui est membre de l'Union européenne, l'avortement, il reste interdit à cause de ce poids de l'Église catholique, du pouvoir qu'elle a dans la société. Et puis, on voit en Italie, bien sûr, hein, que la religion est au cœur du programme politique de la nouvelle première ministre, dont j'ai oublié le nom.
Giorgia Meloni.
Et oui, et la religion est au cœur de cette idéologie fasciste qu'elle défend. La religion, la famille et la patrie. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve en France, avec des mouvements politiques qui sont pas nouveaux, hein, qui existent depuis longtemps, mais qui se sont restructurés ces dernières années, ces 10 dernières années, beaucoup à partir du mariage pour tous. Et le mariage pour tous, les mobilisations contre le mariage pour tous ont été vraiment un moment clé pour la formation de beaucoup de mouvements politiques actuels qui aujourd'hui se retrouvent au cœur de la vie politique française, et notamment la candidature d'Éric Zemmour, qui est très semblable, hein, à celle de Claudia Meloni, famille, patrie et puis religion, mine de rien. Ça aussi, c'est très, très au centre de son idéologie. Et de l'idéologie de son parti, de son mouvement, dans lequel on trouve beaucoup de gens qui sont issus de ces mouvances d'extrême droite catholique, issus de la Manif pour tous. On y retrouve aussi des mouvements politiques catholiques plus traditionnels, plus anciens, en tout cas, tels que le parti chrétien-démocrate, le parti VIA, et dont on connaît la plus célèbre représentante, Christine Boutin, et Jean-Frédéric Poisson. Mais ces mouvements existent en France. Et ces mouvements ont des méthodes différentes, ont aussi une audience différente auprès du grand public, des institutions, des pouvoirs politiques. Et l'inquiétude, c'est évidemment depuis juin, c'est qu'est-ce que vont faire ces 90 députés à l'Assemblée, parce que le Rassemblement National n'est pas un parti qui défend l'avortement, bien au contraire. Les votes du Rassemblement National au Parlement européen s'alignent sur un agenda anti-avortement. Et en France aussi. Il avait été question pendant longtemps, c'était Marine Le Pen parlait beaucoup de dérembourser l'avortement. On conçoit bien la limitation d'accès que ça pose pour toutes celles et ceux qui n'ont pas assez d'argent, à commencer par donc les plus pauvres et en particulier les étrangères. Et puis les mineurs, bien sûr, qui n'ont pas nécessairement d'argent à débourser pour des actes médicaux qui, sans être très coûteux, sont beaucoup trop pour le faire avec de l'argent de poche lorsqu'on a 16 ans. Donc, c'est des mouvements qu'il faut prendre très au sérieux en France, parce que ces mouvements font énormément de lobbying, et surtout font énormément, s'intéressent de plus en plus à l'influence médiatique. À l'influence médiatique qui va se traduire par les réseaux sociaux, par la diffusion de fausses idées, d'idées fausses et dangereuses. Et puis, on le voit d'une part avec le fameux délit d'entrave numérique à l'IVG qui a été mis en place, qui a été voté par le Parlement il y a quelque temps, et qui servait à contrer les faux sites d'information. Et les fausses lignes d'écoute qui sont très très bien référencées en ligne, parce que ces gens-là savent utiliser les outils du référencement, les outils numériques, pour permettre de faire en sorte que ça arrive au-dessus des résultats officiels, et puis rediriger les femmes qui se posent des questions sur l'avortement, sur la contraception d'urgence aussi, et la contraception en général. Les rediriger vers des plateformes d'écoute qui se présentent comme neutres, mais qui cherchent à les convaincre de ne pas avorter.
Oui, ça c'est très important. Du coup, je le répète pour les auditeurs, les auditrices, des jeunes femmes ou des moins jeunes femmes, parce qu'à tout âge, on peut vouloir ne pas mener une grossesse à terme pour plein de raisons. Attention, il y a des numéros de téléphone vert et des sites internet qui se présentent. On a l'impression qu'ils vont nous donner des informations fiables pour interrompre une grossesse, alors qu'en fait, les gens au bout du fil vont tout faire, y compris par le mensonge, comme tu le décrivais très bien, Cécile, avec des images de fœtus avortés à des moments beaucoup plus tardifs qui sont là des interruptions médicales de grossesse. Je crois que, dit-elle, tu voulais en parler aussi. Hein, c'est pas la même chose, l'interruption volontaire et l'interruption médicale qui peut intervenir beaucoup plus tard, quand notamment l'enfant a des malformations, etc. Mais donc, attention à là où vous allez prendre vos renseignements. Et puis, moi, je voudrais quand même que tu détailles un autre point. C'est que tu sembles dire que les mouvements anti-avortement religieux et politiques anti-avortement sont les mêmes que les mouvements qui considèrent que l'homosexualité est une tare, une maladie ou un vice.
Absolument. Et en fait, ces mouvements-là sont aussi très, très actifs dans la lutte contre les mouvements, comment dire, promeuvent l'homophobie, la transphobie. Et...
C'est ça, il y a un discours qui serait, j'ai l'impression, ça rejoint ce que je disais sur Casanovas et la nature tout à l'heure, et faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il y a un discours qui vient dire qu'il n'y aurait qu'une seule chose naturelle, ça serait finalement que nous les femmes, on soit amoureuses seulement de messieurs et vice-versa, et que finalement, il ne faudrait pas prendre de contraception, et quand on est enceinte, et ben, ma foi, il faudrait le mener jusqu'à son terme. Donc c'est un discours qui va utiliser l'idée de nature, qui va dévier l'idée de nature, et j'ai l'impression pour arguer soit d'une mère dénaturée qui voudrait avorter, soit d'une femme dénaturée parce qu'elle serait homosexuelle, d'un homme dénaturé parce qu'il serait homosexuel, ou d'une personne trans qui serait contre la nature. Et donc j'ai envie de dire attention à l'argument de nature, parce que la nature, on lui fait un peu dire ce qu'on veut.
D'ailleurs, c'est vrai qu'on parle d'IVG pour les femmes cis, mais pas uniquement, hein, l'IVG, bien sûr.
Tu veux dire que ça pourrait concerner un homme trans?
Exactement. Mmh. Et c'est important.
Et une chose que je voulais rajouter, quand on comparait là les mouvements aux US qui arrivent maintenant sur la scène politique et sur le lobbying européen, il y a un mouvement qu'on voit peu, c'est en fait le fait que aux États-Unis, donc il y a 50 États, 51 avec quand on prend en compte la capitale, et sur ces 51 entités politiques, il faut vraiment se souvenir qu'il y en a 21 dont au jour d'aujourd'hui, l'avortement, l'IVG est possible jusqu'à la date de viabilité du fœtus. Et ça a été une grande marque, en fait, pendant longtemps, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est que, donc, entre 24 et 28 semaines, il y a 21 États qui acceptent, encore aujourd'hui, après Roe v. Wade et ce qui s'est passé en juin, qui acceptent l'avortement. Il y a 5 États et la capitale où il n'y a pas de date limite pour l'avortement aux États-Unis, encore aujourd'hui.
On peut donc avorter à n'importe quel moment.
À n'importe quel moment, sachant que l'énorme majorité des personnes avorte le plus tôt possible. Mais en fait, ça laisse
le choix.
Ça laisse le choix, et surtout, ça laisse... Parfois, on découvre quelque chose et qui change la décision de la personne avec utérus. Et ben, cette personne-là, si elle découvre cette chose à 6 mois et pas à 4 mois, et ben, elle ne doit pas en fait passer par des barrières administratives, psychologiques, médicales supplémentaires pour avoir accès à l'IVG. Et en fait, les États qui interdisent l'IVG aux États-Unis, il y en a au jour d'aujourd'hui 9. Il y en a 4 où le délai est de 6 semaines et 1 où le délai est de 15 semaines. Et en fait, ça, c'est vraiment donc 14 États qu'on considère aux US comme hautement restrictifs. Mais alors qu'en France, le délai, il est de 14 semaines. Donc, c'est moins que les États où déjà aux États-Unis on dit « Ah non, cela c'est ultra restrictif » et c'est pour ces États-là ou contre les lois dans ces États-là que les femmes américaines se battent. Tous les autres États ont un délai d'IVG qui est plus grand que la France.
Tout est relatif, en effet. Hein. Merci pour cette remarque, qui est super importante. Ouais. Et en fait, on a parlé un petit peu de l'historique aux États-Unis et on n'en a pas parlé en France. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de comment ça s'est passé. Donc, en fait, on peut dire que tout a commencé avec Simone Veil et l'écriture du deuxième sexe qui est
Simone
paru...
Simone de Beauvoir,
Simone
je pense
de
que
Beauvoir.
J'ai dit...
Tu t'as dit Simone Veil, mais ah, bah, oui. C'est les Simone, hein, c'est les Simone.
Donc, en fait, ce bouquin a provoqué une prise de conscience qui a mis du temps avant d'être suivi des faits, malgré l'action des mouvements féministes. Mais c'est dans les années 60 que ces mouvements ils ont pris toute leur ampleur en France. Et le premier centre de planning familial a ouvert. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas planning familial. Il y a tout un tas de... il y a eu une évolution, mais 1960, c'est l'ouverture du premier planning familial. Et devinez où il a été ouvert ?
Quand même pas à Valence.
RPZ.
À Grenoble.
À Grenoble, bravo.
Et les fondateurs voulaient en fait permettre à chacun de vivre une sexualité libre et épanouie sans avoir peur de grossesse non voulue. D'ailleurs, il y a un reportage sur l'ouverture du premier centre du planning familial à Grenoble qui a été diffusé le 16 juin 1961. Et je vous conseille de le regarder. De nombreuses et nombreux militants au planning ont participé à tout un tas de mouvements, fournissaient des contraceptifs, pratiquaient des avortements clandestins ou organisaient des voyages en Angleterre pour pouvoir avoir oui. accès à l'IVG. Et il y a eu un gros réseau sur Grenoble.
Oui, je peux en parler parce que ma mère, qui est désormais âgée de 82 ans, a avorté en 1963. Grâce à un médecin qui faisait des avortements illégaux à l'époque, et c'était un réseau d'étudiantes, et c'était le, elle me dit toujours, c'était le père de Michel Fugain. Michel Fugain, bon, évidemment, ici, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je pense qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui se rappelleront de ses chansons. Bah voilà, son père, c'est un militant féministe et pour la santé des femmes. Parce que l'avortement, c'est aussi toutes les femmes, je crois que dit-elle, tu voulais en parler, toutes les femmes qui, quand on leur interdit l'avortement, le nombre de fœtus avortés ne diminue pas. En fait, on va le faire avec des aiguilles, on va le faire avec des méthodes de grand-mère, on va le faire en douce, on va se charcuter et à la fin, le fœtus meurt et la mère aussi.
En tout cas, ouais, tout à fait. J'avais noté cette phrase dans un des podcasts dont je parlerai après, Le pouvoir du médecin, sur la série de documentaires LSD. Et c'était vraiment super intéressant, avec 4 épisodes. Je vous conseille de l'écouter, ça retrace vraiment pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé. Pour en revenir à l'historique, donc, la légalisation de la contraception date de 1967. Je fais une parenthèse, mais la contraception est plus ou moins reliée à l'IVG. Plus ou moins.
Bah, c'est toujours le droit des femmes à disposer de leur corps.
Exactement. Et l'IVG...
Enfin, de tout le monde à disposer de son corps, d'ailleurs. Hein. Des femmes, des hommes, des enfants. Le droit des êtres humains à disposer de leur corps. Pardon, je m'enflamme, excusez-moi.
L'IVG a donc été légalisée le 17 janvier 1975 avec la loi Veil. Merci, Simone.
Ah.
D'ailleurs, à la base, c'était une loi expérimentale. Je ne sais pas si vous le saviez, pour une durée de 5 ans. Mais elle a été reconduite sans limite de temps en 1979. Et elle dépénalisait l'IVG pratiquée avant la fin de la 10e semaine, sous certaines conditions cumulatives. C'était quand même pas encore ça, mais c'était un bon début.
Notamment, l'une de ces conditions, c'était celle de détresse. Et on voit l'évolution des mentalités. C'est qu'aujourd'hui, on ne demande plus à une personne enceinte d'être dans un état de détresse pour avoir accès à un droit qui est somme toute assez fondamental.
Oui, parce que qui l'évaluait, la détresse ?
Voilà.
Le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale a été voté en 82 avec la loi Roudy. Merci.
Yvette ?
Exactement, qui a été quand même au passage la première ministre en titre à être exclusivement consacrée aux droits des femmes en France. D'ailleurs, dans notre gouvernement actuel, il n'y a plus de ministre de droits des femmes. Tant qu'on est dans les années 80, je vous propose d'écouter une chanson d'Anne Sylvestre. Non, tu n'as pas de nom.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non. Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste, depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Je reprends mon petit historique. Donc, année 2000, on se rapproche d'aujourd'hui. 2001, les dispositions de l'IVG ont été modifiées par une loi permettant d'allonger le délai de 10 à 12 semaines de grossesse. Et plus récemment, en 2020, la question de l'IVG en France a fait l'objet d'un rapport parlementaire. Et cela a abouti à la loi du 2 mars 2022, c'est cette année, hein, avec l'allongement du droit à l'IVG jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Bon, ok, c'est légal en France, mais c'est quand même plus de 130 fermetures de centres IVG depuis 2010. D'ailleurs, on a peut-être augmenté la jauge depuis. Je sais pas si Constance...
Je suis pas sûre du nombre exact, mais on est dans les 130, oui.
Se sent-on menacé? Je sais pas, mais on peut réduire de fait l'exercice du droit à l'avortement sans loi, juste en réduisant ou en supprimant les financements. Donc...
Oui, une des raisons qui fait qu'il y a eu une manifestation... Le 28, à Valence, à 18h, c'était un rassemblement aussi pour exiger des moyens pour l'avortement, parce que bah, je crois que c'est ce que tu voulais expliquer, Constance, c'est que quand l'avortement n'est pas remboursé, enfin, n'est pas coté de manière intéressante pour les médecins, ils l'abandonnent, sans parler de la clause de conscience, et s'il n'y a pas assez de centres pour avorter, de fait, on réduit notre capacité à en bénéficier quand on en a besoin dans les délais.
C'est l'ensemble du secteur de la santé qui connaît une crise aujourd'hui. Lorsque la crise du coronavirus a commencé, il faut se souvenir que les services d'urgence étaient déjà en grève depuis un an. sans que leurs revendications soient écoutées. Et c'est quelque chose qui touche l'ensemble du secteur de la santé, c'est-à-dire qu'il est très difficile aujourd'hui même... Avoir un médecin généraliste, trouver un médecin généraliste est très difficile, parfois dans des grandes villes. On peut imaginer, bien sûr, que c'est encore pire dans les déserts médicaux. On n'a pas besoin d'imaginer, c'est pire dans les déserts médicaux. La question, c'est lorsque des soins aussi basiques et aussi courants que soigner une grippe vont être difficiles à satisfaire, quelque chose comme l'avortement... qui en plus peut être soumis chez pas mal de médecins à des... on en a parlé à la clause de conscience, c'est-à-dire des médecins qui vont s'opposer à la pratique de l'avortement et qui vont refuser de le faire et qui ont l'obligation. Alors, sachez-le, si vous avez un médecin qui refuse de pratiquer l'avortement, de vous prescrire une contraception ou ce genre d'acte, il a l'obligation de vous rediriger vers un de ses collègues confrères, il ou elle d'ailleurs, a l'obligation de vous rediriger vers quelqu'un qui va pratiquer ces actes. C'est-à-dire que vous ne devez pas rester sans avoir accès à ces soins qui sont un droit.
Mais donc du coup, ça veut dire qu'on peut encore rallonger le délai quand on veut avorter parce qu'un médecin refuse. Cette clause de conscience, elle est spécifique à la France ?
Non, elle existe dans plein de pays. Alors, Cécile peut en parler, mais ça existe aux États-Unis. Ça existe l'Italie, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. L'Italie est un pays où il est très difficile d'accéder à l'avortement, parce que dans certaines régions, pratiquement tous les médecins sont objecteurs de conscience et refusent de pratiquer l'avortement. Et donc, de fait, le droit à l'avortement n'existe plus là-bas.
Et un troisième point, je pense, qui est important hein, et qui fait partie des menaces, c'est l'information. J'avais eu un témoignage d'une femme d'un bon niveau de vie, donc qui a accès à un certain nombre d'informations, d'éducation, etc., et qui disait avoir eu recours plusieurs fois à l'IVG, malgré la contraception. Donc déjà, première chose que tout le monde ne sait pas, on peut tomber enceinte même avec une contraception et avoir du coup recours à l'IVG. Enfin, en tout cas, moi, je m'étais dit, si on a la contraception, on n'a pas besoin d'aller avoir recours à l'IVG, mais c'est faux. Quand on est à l'école, on a un petit cours d'éducation sexuelle assez rapide, mais il est clairement pas focus sur l'IVG.
En France, la loi dit qu'il doit y avoir 3 séances par an pendant 7 ans. Alors, je crois que ça commence à partir du CM2 ou de la 6e. Jusqu'à la première ou la terminale. Donc 3 séances pendant 7 ans, 21 séances au total. En réalité, il y a des élèves aujourd'hui qui ne reçoivent, qui arrivent, qui vont, qui sortent de l'enseignement secondaire sans jamais avoir reçu de séance, par opposition des établissements ou par manque de moyens, souvent plus par opposition. Alors, lorsqu'il n'y en a aucune, c'est par opposition. Et qui n'en ont pas reçu, ou le plus courant, qui n'en ont reçu qu'une, deux, trois, mais certainement pas les 21 obligatoires. Obligatoires. Cette loi n'est pas respectée. Par manque de moyens, parce que c'est difficile à organiser, parce qu'il n'y a pas nécessairement des heures qui sont prévues, parce que les professeurs peuvent aussi être mal à l'aise avec le fait d'aborder ces sujets-là en classe. C'est aussi une question qui se pose, enfin un problème qui est souvent mentionné. Et puis le nombre de personnes formées pour intervenir et faire cette prévention-là. Et parce qu'il y a ce manque, parce que l'éducation sexuelle aujourd'hui n'est pas faite de manière satisfaisante, on voit, justement, on en parlait, les catholiques en France, qui occupent cet espace-là et qui vont faire une éducation sexuelle qui va évidemment être, pas toujours ouvertement, mais parfois oui, qui va être homophobe, qui va être anti-avortement et qui vont intervenir dans les établissements. Alors, par exemple, y compris dans les établissements publics, notamment dans les quartiers un petit peu très chic, dans les Hauts-de-Seine, dans les Yvelines, près de Versailles. Ce sont des endroits où, dans les établissements publics, on peut avoir des associations qui sont menées par des personnes de confession catholique qui ont une idée de l'éducation sexuelle et de l'éducation à la vie affective et sexuelle qui est très très restrictive et qui se rapproche finalement d'une éducation à
l'abstinence.
Oui, c'est très centré. L'abstinence, qui est un vrai problème aux États-Unis. La question aux États-Unis des grossesses chez les mineurs est beaucoup liée à cette éducation sexuelle qui est centrée sur l'abstinence. Et ça existe aussi en France.
C'est vraiment super intéressant et malheureusement, il faut qu'on fasse une autre émission, c'est obligatoire. Hein.
Oui, moi j'ai envie de faire effectivement une autre émission On a envie après, maintenant qu'on sait comment ça se passe, de dire mais comment faire si on en a besoin. Et effectivement, avec Ditel, on s'est dit qu'on ferait une autre émission sur l'IVG, sur concrètement comment y recourir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas nous dire, qu'est-ce qu'on peut nous opposer ou au contraire, quels sont nos droits. Parce que finalement, comme tu le soulignais, on connaît pas vraiment nos droits. Et le jour où on y est confronté, bah, l'alarme tourne, il y a que 14 semaines. Donc il s'agit pas de se faire avoir par un discours anti-avortement ou réticent à l'avortement.
Alors cependant, il faut savoir qu'en même temps que le délai a été allongé à 14 semaines, il y a aussi un autre aspect de la loi, c'est qu'au-delà de 14 semaines, on ne choisit pas soi-même d'avoir accès à l'avortement, c'est un médecin qui doit décider, ce qu'on appelle l'interruption médicale de grossesse, qui s'étend donc de 14 semaines jusqu'à la fin de la grossesse. Et une nouvelle condition d'accès qui a été ajoutée dans la loi, c'est celle de la détresse dite psychosociale. Et cette détresse psychosociale, somme toute, c'est la condition d'accès qui existait pour accéder à l'avortement en 75.
En 75, c'est pour ça que tu en parlais, en fait. C'est le retour de la détresse, mais après 14 semaines.
Et qui peut-être pourrait permettre de limiter le nombre d'avortements qui vont avoir lieu à l'étranger, parce qu'il va être davantage possible de le pratiquer après la fin du délai de 14 semaines.
Donc c'est une ouverture. Et est-ce que tu peux rappeler vite fait les motifs d'interruption médicale de grossesse ?
Et l'interruption médicale de grossesse est essentiellement centrée sur lorsque la grossesse est un danger pour la vie de la personne qui porte l'enfant, ou bien pour l'enfant si jamais il n'est pas viable, et aussi, et c'est une question qui est un petit peu délicate parce qu'elle est elle est tout à fait liée à une société qui est eugéniste et qui ne supporte pas vraiment le handicap, souvent pour des questions de handicap lors des diagnostics prénataux, on peut repérer qu'un fœtus va présenter un handicap à la naissance, par exemple la trisomie 21, mais plein d'autres types de handicaps, décider d'interrompre la grossesse. Mais voilà, là, c'est
donc
médical.
Donc, il y a trois motifs, deux médicaux, on va dire, la santé de la mère et la santé du futur enfant, et un motif rajouté de détresse psychosociale, c'est ça ?
Oui.
Ok, merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces échanges. Moi, je vous propose de finir avec une chanson douce, sans mauvais jeu de mots, qui s'appelle « Poussière d'ange » d'Ariane Moffat, qui est une super jolie chanson, pour clôturer ce sujet IVG. Et puis ensuite, on retrouve Oxane pour sa chronique. À tout de suite.
pris pour sa maison. C'est pas une fille, c'est pas un garçon, c'est pas un bélier, ni un poisson. Oublie ça, c'est pas possible. Tu perdrais l'équilibre. Prends ma main, je t'emmène loin. On sera de retour.
Salut Oxane, alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui je vais vous parler déjà d'un livre qui s'appelle « Les étincelles invisibles » de Elle McNichol. Ça parle de Adeline, Adi de son surnom, qui est une ado autiste. Elle a deux parents et deux sœurs qui sont jumelles, dont une qui est autiste comme elle. Et un beau jour, sa professeure annonce à sa classe qu'ils vont étudier les sorcières pendant ce semestre.
Ouais, les sorcières, ça a l'air bien, dis donc, moi je vais y aller à une école comme ça, trop bien.
Ouais, après ils en parlent pas forcément en bien.
Ah, ils ont rien compris.
Adi a envie d'en apprendre plus, donc elle se renseigne et est horrifiée par ce que son village a fait à l'époque aux sorcières. Elle s'identifie à elle parce qu'elle se dit que sûrement que ces sorcières étaient juste différentes comme elle. Elle va donc tout faire pour qu'une plaque commémorative en l'honneur des sorcières soit dressée dans son village. Mais dans sa vie personnelle, c'est compliqué. Entre le fait qu'elle se fasse harceler par ses camarades de classe et sa professeure, et que sa sœur n'en puisse plus de devoir agir comme une neurotypique, elle va devoir garder son calme pour ne pas craquer. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que ça parle des sorcières, et que le personnage principal est autiste, et que c'est très intéressant de voir comment les personnes autistes voient le monde. Je vous avoue que je me suis demandé plusieurs fois si j'étais pas moi-même autiste. Je conseillerais ce livre à partir de 11-12 ans. Et du coup, je laisse lire l'extrait à 4.
Je passe chaque minute de ma vie quand je ne suis pas à la maison, à remettre en question tout ce que je pense et tout ce que je fais. Je scrute le visage des gens pour être sûre qu'ils acceptent ce que je suis en train de dire, qu'ils ne sont pas vexés ou offensés. Je me fais toute petite, je rétrécis, je garde les yeux baissés et les mains tendues, comme pour mendier un minimum de sympathie. Tous ces gens font-ils de même pour moi ? Mesurent-ils parfois combien c'est difficile d'entendre et de ressentir les choses si intensément qu'elles peuvent vous mettre KO ? C'est ça que tu ressens des fois ? C'est pour ça que tu as choisi ?
Un peu, oui.
Un peu. C'est vrai qu'en tant que femme, je pense, autiste ou pas autiste, on est très très soumise au jugement sur notre corps, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, et qu'on peut ressentir ça, je pense, assez fréquemment. Ben, merci pour ce conseil.
Et pour finir, une petite info, Enola Holmes 2, dont j'ai déjà parlé dans une précédente chronique, va sortir sur Netflix le 4 novembre.
Et c'est la fin de cette 26e émission. Au revoir à tous et à toutes.
Au revoir.
Au revoir.
Salut, salut. Yo. The boys wanna be her. The girls wanna be her.